Vous promets, je vous parle de 1 Samuel 17, c'est super, mais il y a tellement de trésors et on ne peut pas attendre juste que le prédicateur, que quelqu'un vous enseigne. Revenez sur ce qui a été enseigné. Vraiment, comme je vous l'ai dit, ruminons, mâchouillons, enfin peu importe le mot que vous utilisez, mais la parole de Dieu, ça se sonde, ça. Voilà, donc on laisse le Saint-Esprit nous parler. Et ça, ça ne veut pas être juste un dimanche matin, tac, c'est super, ça m'a fait du bien, je repars de ma vie. Non, on a besoin de revenir à ce que Dieu nous a dit et de se laisser toucher par sa parole. Alors relisons ce 1 Samuel 17 chez nous, je nous y encourage. Donc petit rappel, et vous allez m'aider hein, pour ce petit rappel, justement, voir donc, du coup si votre mémoire... est bonne. Donc David, pour rappel, est né dans une famille dont le nombre de fils était de... Bravo. Il était berger et s'occupait des moutons. Et à diverses reprises, il a combattu contre le lion, contre l'ours, comme nous dit la parole, et Dieu lui a toujours donné la victoire. Et petit rappel, donc le peuple d'Israël était en guerre contre les Philistins. Et on trouve dans 1 Samuel 17, alors que David allait apporter de la nourriture à ses frères sur le champ de bataille, qui était au nombre de trois frères qui étaient sur le champ de bataille, il entendit Goliath, un géant qui mesurait 3 mètres et qui lançait depuis 40 jours un défi à l'armée d'Israël. Verset 10, « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin, et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. David, donc ça, on va au verset 26, David, qui entend ce géant prononcer ces paroles, dit « Mais qui est donc cet incirconcis de Philistin pour oser insulter les bataillons du Dieu vivant ?» Et verset 32, alors qu'il est convoqué par Saül, parce qu'il allait voir plusieurs soldats, et puis le bruit se répand que David veut aller combattre Goliath, Saül, le roi de l'époque, l'appelle et lui dit « Alors, j'ai entendu dire que tu voulais combattre ce Goliath, mais toi, tu n'es qu'un gamin. » Et David répond « Voici, j'irai le combattre. » Verset 32. À ce moment-là, David essaye de revêtir l'armure de Saül, mais lui, c'était un petit gamin qui voulait mettre une grosse armure et il n'arrivait pas à bouger correctement. Alors, il a tout enlevé. Il a simplement ramassé combien de pierres ? 5 pierres, sa fronde, son bâton, et il s'est élancé vers le géant. Il a sorti une pierre de sa besace, mise sur sa fronde, bam, lancé. Cette pierre arrive en plein front du géant Goliath qui tombe par terre, et David qui vient et qui le tue. Et l'armée des Philistins est mise en déroute. Voilà un petit court résumé, mais je vous encourage, relisez-le, c'est captivant. Et donc ce que j'ai rappelé, deux points que j'ai eu le temps de rappeler le dimanche dernier, c'est que quand le Saint-Esprit nous remplit, nous sommes animés d'un courage que rien ne peut nous enlever. David était animé du Saint-Esprit qui lui donnait une vaillance et un courage dépassant ses propres forces. Petit rappel, il a été oint d'huile par Samuel et il est écrit dans quelques versets avant, qu'à ce moment-là, l'Esprit de l'Éternel reposait sur lui. Et quand l'Esprit de l'Éternel repose sur nous, eh bien, on se trouve à avoir une foi, à avoir une vaillance qui dépasse notre taille, notre âge, qui nous sommes, mais on est animé de l'Esprit. Alors, on se sent invincible. Rien n'est impossible en faveur de celui qui croit. Et c'est ça que... Et donc, je nous encourageais la semaine dernière à nous nourrir du Saint-Esprit, à nous nourrir de sa parole et à être remplis du Saint-Esprit pour aller là où le Saint-Esprit nous enverra. Et la deuxième chose que j'ai partagée, c'est d'être fidèle dans les petites choses. David, il n'avait que 5 pierres et j'ai fait le parallèle avec les évangiles où il y a ce petit garçon qui apporte ses 5 pains et ses 2 poissons alors qu'il y avait une multitude à nourrir. Mais Jésus, qui a rendu grâce, a pu nourrir 5000 hommes, juste hommes, avec les femmes et les enfants. Et il y a 12 corbeilles qui sont restées à la fin. Juste 5 pains et 2 poissons. Et peut-être que parfois, on se sent un peu comme ça. On dit, mais Seigneur, regarde, mais il y a tellement de choses à faire. Moi, j'ai mes 5 pauvres petits pains et mes 2 poissons. Mais Jésus dit, moi, je suis celui qui va multiplier.
et juste apporte ce que tu as, sois fidèle dans les petites choses, dans ce que Dieu te donne, dans les dons et dans les capacités que Dieu t'a donné, et lui va multiplier. Et combien de fois on voit ça dans la Bible, que ce soit pour Gédéon, pour tellement d'hommes de la Bible, mais aussi pour nos vies, que un petit homme vraiment animé de Dieu ou une femme a pu délivrer Israël, a pu faire des choses extraordinaires parce que Dieu était avec lui. Et c'est ce qui revient. Fortifie-toi et prends courage. Dieu a dit à Josué, car je suis avec toi et je combattrai pour toi. Et quand Dieu combat pour nous, rien, qui sera contre nous? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Et c'est un rappel de ne pas mépriser ce que Dieu nous a donné, de ne pas jouer la petitesse, avoir cet esprit de pauvreté, dire mais Seigneur, j'ai rien, j'ai que 5 euros sur mon compte en banque. Mais Dieu peut multiplier tes 5 euros et il peut te donner, et il peut les multiplier en milliers d'euros pour que toi, tu sois une bénédiction pour ceux qui sont autour de toi. Mais comme l'a dit Matthieu, juste apporte ce que tu as, ce petit enfant. Il ne les a pas gardés pour lui, pour dire, bon, ben, je vais les garder pour ma famille. Il a apporté, il dit, ben, tiens, j'ai ces 5 pains et ces 2 poissons. Et quand on donne, quand on apporte, c'est à ce moment-là que Dieu multiplie. Alors, c'est ce que je vous avais partagé, de apporter ce que tu as et Dieu va multiplier et te bénir. Et aujourd'hui, donc, j'ai 2 points, j'en ai rajouté un du coup, hein. Mais j'ai 2 points que je voulais partager en plus, mais un qui va de pair avec que le premier, mais je n'avais pas eu le temps d'aller trop loin, c'est que David savait qui était Dieu. C'est vrai qu'il était animé du Saint-Esprit, c'est vrai qu'il avait cette vaillance et ce courage, mais en même temps, on voit dans tout ce qui répond à Saül, tout ce qui répond à l'armée d'Israël et ce qui répond aussi à Goliath. Hein, j'aime qu'on visualise 3 mètres le mec. Hein, moi, je fais 1m95, 3 mètres le gars. Et je ne veux pas trop de temps, mais il était armé vraiment jusqu'aux dents. Et il se présente devant David qui, d'après la parole, était petit. Un bâton, sa fronde, 5 pierres. Et il ose regarder ce géant et dire « Aujourd'hui, le Seigneur te donne à moi. Aujourd'hui, je vais te vaincre. » Mais vous imaginez, vraiment, moi, j'ose imaginer, je dis, mais waouh, ce gars, il était animé du Saint-Esprit et il savait que si Dieu était avec lui, si le Saint-Esprit vraiment lui disait, ben vas-y, et ben que le Seigneur allait lui donner la victoire. Pourquoi? Parce que on a lu dans le chapitre précédent, la semaine dernière, qu'il a combattu le lion, qu'il a combattu l'ours, alors qu'il gardait le troupeau, il était régulièrement, ou en tout cas de temps en temps, attaqué par le lion et par l'ours, et il a délivré ses moutons de la gueule du lion et de l'ours, parce que le Seigneur était avec lui. Et donc, parce qu'il a vécu ça, parce qu'il a expérimenté la victoire avec Dieu, eh ben, devant sa route, il pouvait se dresser Goliath, d'autres géants, n'importe quoi. Si Dieu est avec lui, il savait qu'il aurait la victoire. Et pour nos vies, c'est pareil. Nous avons besoin d'expérimenter Dieu. Quand tu expérimentes la guérison, quand tu expérimentes une réponse à tes prières, quand tu expérimentes l'amour de Dieu, mais du coup, tu sais que c'est vrai. Tu sais que ce n'est pas que des paroles et que des versets, mais tu peux l'attester dans ton fort intérieur. Je l'ai vu de mes propres yeux. Je l'ai vu de mes propres yeux. Plus on connaît Dieu, plus on sait de quoi il est capable. Plus nous expérimentons sa présence, sa paix, sa joie, ses réponses à nos prières, plus notre foi grandit en celui qui peut toutes choses. Et c'est extraordinaire. Et vous savez, il y a ce verset qui dit que Seigneur, nous héritons de la vie éternelle et la vie éternelle consiste à te connaître, toi le vrai Dieu. Et c'est important des fois de recentrer les choses sur notre vie, sur notre passage sur cette terre, mais sur notre vie éternelle. À quoi consiste la vie éternelle? À le connaître, lui, le vrai Dieu. Et on a, je pense, cet appel et cet encouragement du Seigneur a dit, prends du temps avec moi, apprends à me connaître, apprends à connaître mon caractère, comment je fonctionne, pour que dans les situations que tu es, que tu ne crains pas, mais que tu sois dans l'expectative de ce que j'ai fait par le passé, je vais le refaire. Et petite parenthèse, vous savez, si on est là ici à Montélimar, c'est que Dieu nous a envoyés pour démarrer cette église et avec d'autres vraiment amener le réveil sur cette région de la Drôme. Et moi j'y crois dur comme fer, je ne suis pas venu ici ni pour le travail, ni pour les amis, ni pour la famille. J'ai tout quitté avec ma famille, comme Abraham, j'ai tout quitté pour venir ici, m'appuyant sur ce que Dieu m'avait dit, va là-bas et tu vas voir des choses extraordinaires se passer. Et on est qu'aux prémices, je crois, on vit déjà des choses superbes, mais Dieu va le faire. Et il nous a donné ce verset dans Ecclésiaste 3, verset 15, qui dit, et vous pourrez le lire, que ce que Dieu fait dans le passé, il est capable de le refaire. Et on croit encore aujourd'hui que les réveils qu'il y a eu dans la Drôme, dans cette région-là, il y a des centaines d'années, Dieu va le refaire aujourd'hui de façon encore plus puissante. Et moi, c'est l'attente que j'ai, c'est la foi que j'ai. C'est pas simplement de se réunir là ensemble, passer du bon temps. Voilà, c'est ce temps comme quand Néhémie reconstruisait la muraille, ils se rassemblaient, mais ensuite ils se dispersaient ensemble pour reconstruire la muraille. Ben nous, c'est pareil. Ensuite, on se redisperse dans nos travails, là où Dieu nous envoie pour amener le royaume de Dieu. Mais je veux vous encourager, ayez cette attente, ayez cette foi que le Seigneur va faire des choses extraordinaires dans cette région et que le réveil commence déjà et là et va se manifester encore plus dans nos vies. Amen. Vous y croyez? Yes. Alors, un petit exemple perso que je veux vous partager pour fortifier votre foi et pour vous encourager et illustrer ce que je viens de vous dire. On est parti, comme vous le savez, pour beaucoup, 2 années en Angleterre. On a vécu des choses extraordinaires. C'est là-bas que j'ai vu, moi, personnellement, des dizaines de guérisons. Et, et une guérison, notamment, mais qui était avant, c'était à une semaine à rendez-vous à Gagnères. Il y avait, pourquoi je parle de ça, c'est qu'il y avait un prédicateur qui s'appelait Terry Virgo, qui est le fondateur de la famille d'église Nouvelle Frontière, qui avait, entre guillemets, un ministère pour la guérison pour ceux qui ont mal au dos. Vous savez que des fois, Dieu nous donne une onction particulière, peut-être pour... Moi, je sais que j'avais déjà rencontré une personne qui, dès qu'elle priait pour quelqu'un qui était stérile, eh ben, un an après, deux ans après, il y avait un petit bébé qui arrivait. Et cette personne-là, elle priait souvent pour les dos, et il y avait beaucoup, pour pas dire tous les dos quasiment, qui étaient guéris. Et il fait un appel, il y a 15 personnes qui viennent devant. Moi, j'avais mal au dos à l'époque. Dès que je faisais du sport, du foot, du tennis ou quoi, j'avais très très mal au dos. J'avais que 20 et quelques années, mais déjà, je souffrais de mon dos. Et il dit, ben, c'est très simple, asseyez-vous et vous mettez vos jambes, je vous montre si vous me voyez, comme ça, et vous regardez quelle est la longueur de vos jambes. Et à ce moment-là, c'est vrai que c'était impressionnant. J'avais ça de différence entre ma jambe droite et ma jambe gauche. Et donc il dit, ben souvent, ce qui cause le mal au dos, c'est que vous marchez, vous courez, tout ça. Mais puisque vos jambes ne sont pas de la même longueur, eh ben, ça vous cause un mal en bas du dos. Et c'est exactement ce que j'avais et d'autres copains à moi aussi. Et donc il prie pour nous et quand il arrive à moi, il pose sa main sur mes genoux. Et là d'un coup, je sens une chaleur forte dans mon genou gauche. Je m'en souviens comme si c'était hier, comme si quelque chose me tirait. Alors que juste avant, j'avais vu hein, de mes yeux que j'avais cet écart-là entre mes deux jambes. J'ouvrais les yeux alors que j'ai senti cette chaleur. Et incroyable, quelle stupéfaction de voir que mes deux jambes étaient alignées et qu'il n'y avait plus aucun écart. Dieu avait fait une guérison miraculeuse. Et à partir de ce jour, je ne vous dis pas que j'ai jamais plus eu mal au dos, mais plus jamais comme ça. C'est-à-dire que ça peut m'arriver de temps en temps d'avoir une petite gêne, mais j'ai plus mal au dos après un foot, après un tennis, je suis bien. J'ai quelques courbatures, mais comme je pense tout être humain, mais j'ai plus ce mal qui m'handicapait très souvent. Et c'est incroyable, la puissance de Dieu. Et parce que j'ai vécu ça, parce que je l'ai expérimenté, ben aujourd'hui, j'ai aucun doute que Dieu peut guérir un mal de dos. J'ai aucun doute que Dieu peut faire repousser une jambe, repousser un bras, peut faire ce qu'il veut, parce que je l'ai expérimenté. Et donc c'est une chose de le lire, c'est une chose de le comprendre, c'est une chose de le croire, parce que Jésus a quand même dit « Heureux ceux qui croiront sans avoir vu ». Donc « Seigneur, je veux croire sans avoir vu ». Mais je crois que c'est encore plus, c'est attesté quand tu le vis toi, quand tu l'expérimentes. Tu dis ben, « Seigneur, moi j'ai cru sans voir, mais en plus tu me fais la grâce de l'expérimenter et de voir que oui, notre Dieu guérit. Notre Dieu guérit encore aujourd'hui. Oui, notre Dieu fait encore des miracles aujourd'hui ». Et plus on va l'expérimenter, plus, enfin moi en tout cas ça me donne cette envie de le connaître, plus je le connais, plus je vais l'expérimenter. C'est un cercle vertueux. Et on a besoin d'être en marche et d'être en action dans ce cercle-là, sinon pour que notre vie et pour que notre foi ne soit pas stérile. Hein, vous le savez que nous plaisons à Dieu par notre foi, mais qu'en même temps que la foi sans les œuvres est morte. C'est ce que dit la parole dans Jacques. Et qu'on a besoin que notre foi soit vue aux yeux des hommes, par les œuvres, par « voici les signes et les prodiges qui accompagneront ceux qui croiront en moi. Ils guériront les malades, ils chasseront les démons, ils ressusciteront les morts. » C'est ces signes-là que nous sommes censés voir dans nos vies autour de nous. Et Dieu, vraiment, parce qu'il y a ces fleuves d'eau vive qui habitent en nous, qui sont là et qui veulent se manifester autour de nous. Alors, apprenons à connaître Dieu. C'est tellement bon, sa présence, son amour, vraiment de... Dieu n'est pas une activité de plus dans nos vies, c'est le centre. Les amis, vraiment, je sens que c'est tellement important pour nos vies et je me prêche à moi le premier. Dieu est le centre de notre vie. Que ce ne soit pas que des mots, mais que ce ne soit pas juste une activité de plus, mais mettons-le au centre. Ça ne veut pas dire que vivre avec Dieu, c'est que prier, c'est que être là. C'est dans ton travail, c'est dans ce que tu proclames, c'est dans ce que tu fais. Tu peux faire la vaisselle tout en louant Dieu. Tu peux faire n'importe quoi en honorant Dieu. Mais juste avoir cette pensée de dire « Seigneur, je ne vis, c'est plus moi qui vis en moi, c'est Christ qui vit en moi. » Et je crois que le Seigneur cherche un peuple d'adorateurs qu'il adore en esprit, en vérité. Il cherche un peuple, une génération qui se lève pour lui, qui est radical pour lui, qui le sert vraiment de toute sa vie, de toute son énergie, pour que le monde voit que Jésus-Christ est Seigneur. Ne nous perdons pas de but. C'est ça le but de notre passage sur cette terre. C'est que le monde, Seigneur, te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. Seigneur, c'est que le monde entende que tu les aimes d'un amour éternel. C'est ça le but de notre vie et rien d'autre. Et rien d'autre. Il y a certes le quotidien, il y a le travail, il y a la famille, qui tout ça fait partie du royaume de Dieu. Mais ne nous laissons pas distraire de notre but principal de notre vie. C'est amener, chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront donné en plus. Et David connaissait Dieu, et on le voit dans plein de psaumes, je pourrais pas tout lire, mais j'en ai choisi un, le psaume 18, et merci Mathieu, tu m'en as donné un deuxième, parce que David a dit, mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits, et derrière, je sais pas si vous avez fait gaffe aux mots, mais il déclare qui est Dieu, parce que Dieu, tu es juste, parce que Dieu, tu es saint, parce que tu me délivres, Seigneur, du filet de l'oiseleur. Donc David connaît Dieu, et on le voit encore dans ce psaume 18, verset 2, « Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite, je m'écris loué sur l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. » Et je veux vraiment insister que David, il ne s'est pas dit « Tiens, je vais faire un super chant », parce que vous savez que tous ces psaumes étaient chantés avec la harpe, avec d'autres instruments, et David, il ne s'est pas dit « Tiens, ça rime bien, ça... » Non, on le voit, et à la fin de chaque phrase, si vous avez votre Bible sous les yeux, regardez, il y a un point d'exclamation. Donc ce n'est pas juste, il dit une belle poésie, c'est que c'est soit un ordre, soit c'est une proclamation. « Loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. » Et David l'a expérimenté, il a été délivré de ses ennemis. Combien de fois il a été pourchassé par tellement d'ennemis, et Dieu l'a toujours délivré. Et alors qu'il a même, et je ne veux pas trop spoiler d'autres prêches qui vont arriver parce qu'on va en parler, mais David a eu l'occasion de même tuer Saül à deux reprises et il n'a pas fait. Et alors que même toute son équipe disait mais vas-y, regarde, il est, Dieu te le donne entre tes mains. Et ça aurait pu être une parole de Dieu. Il dit non, qui suis-je moi pour venir tuer le saint de l'Éternel? Et lui, il s'est gardé de se rendre coupable de pécher devant l'Éternel alors qu'il en avait l'occasion. Mais il a dit, c'est Dieu qui est ma justice. Et je crois qu'on a tellement besoin, et encore plus dans le monde d'aujourd'hui, de connaître Dieu. Qui est Dieu? Sais-tu qui est Dieu? Sais-tu quel est son amour? Sais-tu quelle est sa justice? Quelle est sa paix? Qu'est-ce qui réjouit son cœur? Connais-tu ce qui le fait vibrer? Ben, tout se trouve dans la parole de Dieu. Il y a tellement de choses, et pareil, je n'ai pas le temps de tout passer, mais lisons la parole de Dieu, sondons les Écritures, pas comme un livre de plus sur notre étagère, mais vraiment comme la parole de Dieu qui habite en nous. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et je précise que bien sûr, ce n'est pas que la Bible, c'est parce que la parole de Dieu peut venir par d'autres moyens, mais on a besoin de se nourrir de cette parole de Dieu. Et je pense que c'est juste incroyable que plus de 2000 ans après, que cette parole-là soit aussi effective, aussi vivante, c'est extraordinaire. Nourrissons-nous de cette parole de Dieu. C'est tellement important. Nous sommes invités à la table du roi, à la table de Dieu, à le connaître, à découvrir son caractère, ce qu'il est. Juste petit rappel, lent à la colère, mais riche en bonté. Nombre 14, un Dieu saint, c'est-à-dire digne de notre révérence et louange. Un Dieu juste, psaume 11, parfait dans toutes ses voies. Psaume 18, omniscient, omnipotent, omniprésent. Tellement de choses à dire. Dieu, il est extraordinaire. Et on a cet appel de Dieu. Il dit, viens me connaître, viens me découvrir. Et plus on le connaît, plus, les amis, nous serons remplis de sa présence et nous allons porter du fruit pour sa gloire. Amen. Alléluia, Seigneur. Le point numéro 2, et c'est ce fameux point que j'ai retenu la semaine dernière, c'était ne portons pas l'armure d'un autre ou d'une autre. Vous savez, pourquoi je dis ça, c'est que, rappelez-vous, et c'est pour ça que je l'ai relu en début de prêche, c'est que alors que David dit, ben moi, j'irai et je combattrai Goliath, Saül veut lui mettre son armure qui était trop grande, il n'était pas à l'aise, il n'était pas bien, donc il essaye de marcher, mais il arrivait à peine à marcher, et il s'est dit, mais je ne peux pas combattre comme ça. Et donc il a tout enlevé, et il a pris ce qu'il connaissait, comme quand il allait combattre l'ours, le lion, ou peut-être d'autres choses, je pense qu'il prenait sa fronde, son bâton, ses pierres, et il allait combattre. Et j'ai senti que le Saint-Esprit voulait nous rappeler de ne pas porter l'armure d'un autre, d'une autre, de ne pas vouloir ressembler à quelqu'un d'autre, à part Jésus. Et que Dieu t'a donné des capacités et des dons que peut-être tu es le seul à porter, ou en tout cas comme ça, parce que Dieu nous a tous fait uniques. C'est ça qui est extraordinaire. Nous sommes le corps de Christ, nous sommes des pieds, des mains, nous sommes tous différents, tous uniques. Et c'est ça la richesse du corps de Christ. Et ce qui est important, c'est de réaliser quel est l'appel de Dieu sur ta vie. Quel don, quel talent Dieu t'a donné pour que tu sois un ouvrier de paix dans la moisson, pour que tu portes du fruit en son nom. Et c'est important de le savoir parce que parfois, la jalousie, peut-être la comparaison peuvent nous faire perdre de but ou oublier qui nous sommes. Et donc, nous essayons d'être comme telle personne ou comme telle personne, de porter une armure, mais qui ne nous va pas. Et on dit, mais Seigneur, je ne comprends pas. Moi, je fais comme lui, je fais comme... et je ne porte pas de fruit, Seigneur. Mais peut-être que le Seigneur te dit, mais hé, mon enfant, tu es en train de porter l'armure de ton voisin. Moi, je te demande juste peut-être de prendre tes 5 pierres. Peut-être que ça ne paraît pas aussi brillant, aussi beau que ton voisin, mais j'ai une mission pour toi. Et si tu es sur cette terre, ce n'est pas un hasard, tu n'es pas un accident. Mais si je t'ai choisi, si je t'ai donné la vie, cette vie en abondance, c'est pour que tu portes du fruit en mon nom. Alors juste, prends les talents, prends la force que tu as et va en mon nom porter du fruit. Et c'est tellement important, et il y a ces versets que Jésus nous dit, on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres, comme on n'accroche pas un vieux tissu sur un nouveau. De la même façon, le Seigneur nous encourage à sortir de notre bateau et à marcher sur l'eau avec ce qu'il nous a donné, avec peut-être la petite foi que Dieu t'a donnée. Mais vas-y, ose, sors de ton bateau. Quel projet le Seigneur te demande aujourd'hui de démarrer? Quel pas de foi le Seigneur veut t'encourager à faire aujourd'hui? Parce qu'on est tous appelés à ça, à sortir de notre bateau comme Pierre l'a fait. Il a dit, Seigneur, si c'est toi, dis que je... Eh bien, viens me rejoindre. Et Pierre a marché sur l'eau et on l'a chanté. Je chante comme si je marchais sur l'eau. Alors peut-être ça veut pour certains pas dire grand-chose, mais il y a cette notion de dire, voilà, de marcher sur l'eau par la foi. Eh bien, Seigneur, sur ta parole, je jetterai les filets. Sur ta parole, Seigneur, je marcherai sur l'eau. Et Pierre, vous savez, c'était pas un homme très instruit, qui avait fait de longues études, peut-être comme Paul, qui lui, pour le coup, était un ancien juif, vraiment, qui aimait la parole. Ça. Pierre, c'était un pêcheur. Et Jésus a dit, viens, suis-moi, je te ferai pêcheur d'hommes. Et parfois, on se dit, moi, Seigneur, moi, je suis rien. Tu sais, moi, Seigneur, regarde, plutôt, envoie-lui, là. Lui, il est beaucoup mieux que moi. Mais le Seigneur dit, non, c'est toi que j'appelle. Et Dieu prend plaisir à confondre les sages. Dieu prend plaisir à appeler ce qui paraît petit, ce qui paraît insignifiant, pour en faire quelque chose d'extraordinaire. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu te sens insignifiant, tu te sens un moins que rien. Mais Dieu te dit, je t'appelle tel que tu es. Viens juste, suis-moi. Je te ferai pêcheur d'hommes. Viens, suis-moi et je te montrerai ce que tu dois faire. Je te montrerai la mission que je t'ai donnée. Nous sommes tous appelés. Tous appelés. Si tu as choisi Dieu, Jésus, comme si tu as reconnu Jésus comme fils de Dieu, si tu as choisi que Dieu vraiment soit le centre de ta vie, que tu t'es donné à lui, vraiment, tu es sauvé et il a une mission pour toi. Je t'encourage, ne te rejette pas, ne te mets pas à part, ne reste pas dans cet esprit de rejet, mais accepte cet amour, accepte cette main tendue du Père qui te dit, viens, suis-moi mon fils, suis-moi ma fille, car j'ai des projets extraordinaires pour ta vie. Et c'est vrai que l'ennemi cherche souvent à ce que... Oh, attendez, là. Non, excusez-moi. C'est ça que je veux dire. Si Dieu t'appelle, il te donnera toujours l'équipement nécessaire pour réaliser ce qu'il te demande. Et c'est ça que je voulais insister, c'est que dans tout ce que je viens de partager, des fois, on se sent tout petit. Et comme Gédéon, comme beaucoup, comme même Moïse qui bégayait un peu, vous voyez, des fois je me sens un peu concerné. Et pourtant, Moïse a été appelé à parler devant Pharaon. Et lui disait, mais Seigneur, regarde, je parle mal, mais qui suis-je, moi, pour aller devant Pharaon? Mais qui suis-je? Il a dit, viens, car, vas-y, car je serai avec toi. Il a dit ça à Josué, à Gédéon, à tellement d'hommes de la Bible, mais aussi à nous. C'est ça qui est génial, c'est que ce n'est pas que dans la parole de Dieu, il y a 2000 ans, ou il y a 5, 6, 8000 ans. C'est encore aujourd'hui. Dieu te dit, va avec la force que tu as, et il te donnera toujours l'équipement, toujours la force nécessaire pour accomplir la mission qu'il t'a donnée. Et ça, c'est important. Je sentais que parfois, il y a ce... Et je veux le dénoncer parce qu'il y a ce mensonge parfois de croire. Je ne sais pas si c'est... notre culture française, je ne sais pas, mais comme si Dieu, des fois, prenait un peu plaisir à nous voir souffrir, dire, bah, tu vois, ouais, t'apprends la piété, t'apprends. Et je veux juste vous dire que c'est faux. C'est pas, enfin, moi, en tout cas, ce n'est pas le Dieu que je connais. C'est un Dieu qui est juste, c'est vrai, mais qui est lent à la colère et riche en bonté. Et il ne prend pas plaisir à voir ses enfants souffrir. Il ne voit pas plaisir à ce que des milliers d'enfants en Afrique meurent de faim. Il ne prend pas plaisir à ça. Et ça, ce n'est pas sa responsabilité, c'est notre responsabilité en tant qu'humain. Et parfois, il y a ce mensonge qui peut venir de manière insidieuse dans nos vies, de croire que Dieu peut prendre plaisir au malheur. Mais non, c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu parfait. C'est un Dieu qui nous aime. Mais Seigneur, fais-nous comprendre la largeur, la profondeur, la longueur de cet amour. Alléluia. Que rien ne peut nous arracher à l'amour de Dieu. C'est extraordinaire. Et vraiment, je vous encourage, si ça te parle, ça, il est peut-être temps de te repentir, de découvrir le Père d'amour, celui qui t'aime d'un amour éternel, qui dit de toi, tu es une créature merveilleuse. Seigneur. Et par rapport toujours à cette armure, ce que Dieu m'a vraiment dit, c'est... Donc il m'a rappelé une des valeurs qui est phare dans Connect, c'est l'authenticité. C'est l'une de nos quatre valeurs. Et je crois que Dieu veut nous le rappeler encore ce matin. Vous savez, de porter une armure, moi ça m'a tout de suite fait penser à porter un masque. Et combien de fois dans nos vies, parfois, on peut porter un masque? Ça va bien, ça va, mais de ne pas vouloir se rendre vulnérable, de pas pouvoir être vrai. Et pourtant, c'est à cette authenticité que Dieu nous appelle. Parce que Dieu peut nous toucher seulement quand nous sommes honnêtes, comme nous sommes vrais. Et combien de témoignages j'ai pu entendre et moi aussi vivre, c'est quand j'ai crié à Dieu, j'ai dit, mais Seigneur, mais où es-tu, Seigneur, dans ma situation, mais où es-tu? Regarde, Seigneur, regarde ce que je vis, regarde, Seigneur, ce qui est difficile pour moi. Regarde, c'est dans ces moments-là où j'ai été vrai, où j'étais honnête, que le Seigneur est venu me joindre dans ma difficulté, dans ma faiblesse, et sa puissance s'est accomplie dans ma faiblesse. Il m'a donné sa paix, il m'a donné son amour, il m'a donné son réconfort. J'ai vécu des choses difficiles dans ma vie. Ne croyez pas qu'en tant que leader ou que pour certains chrétiens que leur vie est un long fleuve tranquille. On a tous des épreuves. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai perdu ma mère quand j'avais 8 ans. On s'est retrouvé à 4 enfants, seuls, orphelins. Mais le Seigneur, depuis 26 ans, a toujours été là. Et sa main m'a toujours porté, m'a toujours soutenu, même dans ces moments où je pleurais dans mon lit, que je disais, mais Seigneur, elle me manque, ma maman, elle me manque. Mais Seigneur, il m'apportait sa paix et je m'endormais. Vous savez, ce psaume, je ne l'ai pas lu, mais psaume 16, que je m'endors en paix, car toi seul, ô éternel, me fais demeurer en sécurité. Et c'est ce que j'ai expérimenté, je l'ai expérimenté dans ma vie, dans ces moments de détresse. Mais soyons vrais, tu as le droit de souffrir, tu as le droit d'être mal, mais juste crie à Dieu. Sois honnête avec lui, parce que lui voit tout, il est omniscient, omnipotent. Il sait tout ce que tu penses, tout ce que tu vis. Mais simplement, il demande de toi que tu sois vrai. Et c'est ce qui caractérise la vie de David. Pourquoi il était un homme selon le cœur de Dieu? Parce qu'il était vrai. Dans tous ses psaumes, c'est vrai qu'il finit souvent par « Mais je sais que tu es bon, mais je sais que tu es vivant. » Mais avant ça, des fois, il y a des longs, longs, longs psaumes où il dit « Mais Seigneur, pourquoi, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais Seigneur, pourquoi laisses-tu mes ennemis me faire autant de mal ?» Il crie à Dieu, il dit « Mais Seigneur, franchement, je ne te vois pas. Où es-tu, Seigneur? Alors que je pleure la nuit et le jour. » Donc, il répand son cœur devant Dieu, il répand ses émotions, il dit « Voilà ce que je vis. » Et là, le Seigneur, c'est presque, on peut voir une évolution dans ces psaumes où le Seigneur le fortifie. Il dit, Mais Seigneur, je sais que tu es bon. Mais je me souviens, Seigneur, que tes bontés se renouvellent chaque matin. Je me souviens de ce que tu as fait dans ma vie, Seigneur. Parce qu'il a expérimenté Dieu. Donc même dans ces moments d'affliction, il est vrai avec Dieu. Et je sentais que Dieu voulait nous rappeler ça, d'être vrai. Parce que tout ce qui reste caché, les amis, ça c'est important, tout ce qui reste caché, vous donnez une porte ouverte à l'ennemi. Et je l'ai trop vu, moi, dans ma vie. Pendant 4 ans, on n'arrivait pas à avoir d'enfants avec Elodie. Et donc, au début, quand les gens nous posaient la question, au bout de la deuxième, troisième année, alors, les enfants, tout ça, ben, comme peut-être certains d'entre vous, on dit, oh, ben non, c'est pas encore le temps, voilà. Donc, on est jeunes mariés, donc on prend le temps. Sauf que quand ça fait 2 ans, 3 ans, puis bientôt 4 ans, il y a un moment, cette excuse passe un peu moins bien. Parce que tu dis, ben, d'accord, ça fait 4 ans que tu es marié. Et il y a un moment, j'ai vraiment senti que cette phrase dit, Olivier, arrête de faire façade, dis la vérité. Et j'ai trouvé mon ami Mathieu. Et j'ai pu dire, écoute Mathieu, j'ai quelque chose à te dire, c'est un peu douloureux, mais je vais être honnête avec toi, en fait, on n'arrive pas à avoir d'enfants, c'est un peu compliqué. Et puis Elodie a fait pareil de son côté avec une amie d'Angleterre, et à ce moment-là, alors que les choses sont venues à la lumière, Elodie est tombée enceinte 3 ou 4 mois après. Parce que, alors que l'ennemi nous tenait emprisonnés par ces choses cachées, alors parce que j'avais la honte, j'avais la culpabilité de dire, mais pourquoi c'est dur, pourquoi et alors que mes amis commencer à tomber enceinte, à avoir des enfants, j'avais comme cette culpabilité et cette honte. Mais Saint-Esprit m'a dit, laisse venir ma lumière dans ta vie. Laisse, confesse de ta bouche, confesse ce que tu vis et ma lumière va poindre comme le jour dans la nuit. Et c'est ce que j'ai fait et la lumière de Dieu s'est manifestée. Alors, ma sœur, mon frère, si aujourd'hui tu es enchaîné par des choses, par la honte, par la culpabilité, s'il y a des choses qui sont douloureuses dans ta vie et que tu as même honte de le prononcer ou même d'y penser, je t'invite, trouve un frère, une sœur en qui tu as confiance et confesse ton péché. Confesse ce qui est douloureux. Parce que le Seigneur, c'est comme s'il veut te délivrer, mais il ne peut pas, ou des fois, il ne peut pas tant que ça reste caché. Et c'était le cas pour moi. Et du moment qu'on l'a dit, du moment que c'est venu à la lumière, comme par hasard, la vie de Dieu s'est manifestée. Et c'est ce qu'il veut faire pour toi, pour moi. Alors, sois honnête, sois vrai. Ne porte pas, mais bats les masques, rejette le masque, sois vrai avec Dieu et avec ton frère et ta sœur. Cette authenticité passe par confesser nos péchés les uns aux autres, comme le dit la parole, et de dire la vérité dans l'amour. Mais cela fera l'objet d'un autre message. Mais voilà ce que je voulais vraiment vous partager ce matin. Il me reste un peu de temps, c'est génial, parce que j'avais vraiment envie de prier pour nous. Si Samuel, tu peux revenir. Parce que j'ai partagé pas mal de choses, mais je voulais vraiment commencer par ça, parce que j'ai dit à la fin, si tu sais, alors que je l'ai prononcé, c'est comme si le Saint-Esprit a fait remonter certains souvenirs, certaines pensées de chaînes qui te tiennent emprisonné depuis tellement d'années parce que c'est de la honte, c'est peut-être un péché qui est lourd, c'est quelque chose que tu...